dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Pour cette nouvelle émission de l'Afrique dans tous ses états, il va être question de bandes dessinées et de conservation du patrimoine. Et oui, on va voir comment est-ce qu'on relie ces deux mondes qui ont l'air d'être éloignés, mais finalement, peut-être pas tant que ça. Marie-Claude Siakezak invite aujourd'hui le président honoraire, si je peux me permettre, du collectif à l'origine du site sur l'Afrique en bande dessinée, BD et Cannes. Vous me corrigerez l'un et l'autre si je prononce mal tous ces mots. Bonjour Marie-Claude Siakezak.
Bonjour Guylaine.
Et bonjour Geoffrey Ngomo, puisqu'il s'agit donc de vous.
Bonjour et merci de m'avoir invité sur Radio FM+.
Alors Marie-Claude Siakezak, oui. Pourquoi avoir choisi aujourd'hui de nous parler de ce collectif qui associe la BD, l'art, le dessin à la culture antique africaine? Tout un programme, hein?
Oui, tout un programme, parce qu'on a déjà parlé de ces choses-là et j'y tiens beaucoup. C'est que le continent africain est un continent d'une richesse inouïe, incroyable, et qui souvent se balade avec une image de pauvreté, etc. Parce que justement, son paradoxe, c'est d'être tellement riche qu'il est tellement pillé. Et moi, je regrette toujours que finalement, le fait que la tradition orale ait perduré et perdure encore dans ce continent, il y ait une espèce de vide par rapport à son histoire, à la richesse de son histoire, à tout ce qui s'est déroulé. En arrivant avec notre invité, on parlait justement par rapport aux musiques que nous allons passer de l'Empire du Mali, et quand on sait tous ces grands empires, quand on sait tout ce qui s'est passé, on se dit que c'est vraiment dommage que les gens en restent à des images. Alors après, c'est évidemment l'uranium, les pierres précieuses, etc. Et l'or maintenant aussi. Mais entre les deux, voilà, entre les deux, on ne se rend pas compte de cette richesse immense culturelle et de tout ce que tout ce que les Africains peuvent nous apporter. Et en même temps, je déplore souvent en tant que blanche, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, je suis blanche, je déplore justement que ce soit souvent un continent, que justement son histoire, que justement sa richesse soit pillée, hein, que les gens aillent là-bas pour s'approprier, alors non seulement les richesses naturelles, mais aussi les richesses culturelles.
Et donc, nous sommes là pour en parler, Marie-Claude.
Et puis mon invité sera content parce qu'il y a une richesse spirituelle dont qu'ils ont peut-être par moment à nous transmettre,
à travers la BD aussi.
Et peut-être à travers la BD.
On va voir ça. Allez Marie-Claude, à vous la main.
D'accord. Donc, notre invité, qui est... Alors moi je ne sais pas, parce que moi je l'appelle Jeff, tout le monde ici l'appelle Jeff, et en fait son nom c'est Ngomo, il est d'origine gabonaise. Je l'ai croisé à Montpellier il y a fort longtemps, parce qu'à l'époque il avait pris la présidence d'un collectif que j'aimais beaucoup, qui est le collectif des Africains de Montpellier.
Et qui existe encore ou...
Qui était un peu moribond et qui essaye de renaître de ses cendres. Alors je dis pas qu'il était moribond parce que Jeff nous a quittés, mais je dis que quand même il y a eu des années difficiles par rapport à ce comité qui avait pas mal disparu de la carte de la région.
Bon, on en fera peut-être une émission un de ces jours.
Voilà, peut-être qu'il faudra faire, parce que je pense qu'il y a des gens quand même qui essayent de relancer ça.
Okay,
je l'avais croisé à ce moment-là. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est revenu aussi de servir dans son pays. Donc quelque part, voilà, hein, à la fois il est venu ici s'instruire, il a donné sa part un peu à la vie étudiante et collective des Africains à Montpellier, et en même temps il est rentré dans son pays. Et donc là, récemment, j'ai appris qu'il était de passage chez nous, donc il était hors de question qu'il reparte, qu'il nous échappe comme ça. Et donc j'ai eu envie de le présenter et qui nous présente ce qu'il est en train de faire, d'autant que ce qu'il est en train de faire me séduit énormément. Et je vais lui demander, Jeff, bonjour.
Bonjour encore, une fois.
Tout à l'heure, écoute, de nous parler un petit peu de ses engagements, de ses professions de foi. C'est quelqu'un qui est passionné et je lui cède la parole.
Alors, mais je vais d'abord me présenter.
Oui.
Parce que nos auditeurs ne savent pas qui je suis.
Voilà, à part gabonais peut-être.
Voilà. Et je vais le faire selon les deux modes que je connais. Si vous me permettez, le mode occidental, qui peut se résumer sur une simple carte de visite. Hein. J'ai un nom, j'ai un prénom, j'ai une fonction, j'ai une profession. Et je qualifie ça un peu de la civilisation de l'avoir.
Tout à fait.
Et le mode africain, lui, tient plus de la civilisation de l'être. Qui je suis, qui sont mes parents, qui sont mes ancêtres, quelles sont mes origines. Mais dans le mode africain, je le ferais selon ma langue. Car on se présentait à l'époque en Afrique selon sa langue.
Sa langue, tout
à fait. Vous allez apprécier peut-être nos sonorités africaines, linguistiques, qui sont, ma foi, assez différentes des vôtres. Alors, selon le mode occidental, vous l'avez dit, je suis Privat Ngomo. On m'appelle souvent ici Jeffrey, Jeff. Je suis titulaire d'un troisième cycle en mathématiques informatiques, obtenu à l'Académie de Montpellier, ici, à l'USTL, Eugène Bataillon. Et donc aujourd'hui, rentré dans mon pays, je suis un cadre informaticien dans une agence qui est rattachée à la présidence de la République du Gabon. Et je suis par ailleurs, car je suis un homme de culture et d'art, secrétaire général de deux associations, une de droit gabonais, qui est l'association Fondation Mebe, dont la mission est de préserver la culture, de la réhabiliter et de la présenter sous des formes distrayantes aux jeunes générations. Et l'autre association est de droit camerounais, régional. Et cette association a pour but d'organiser tous les deux ans un festival régional de la culture et camp. Je suis par ailleurs auteur, écrivain, j'ai commis une bande dessinée et également en co-rédaction un ouvrage, un essai sur nos traditions. Donc voilà pour ce qui est de la partie occidentale. Alors, pour ce qui est de la partie africaine, de la partie Ekan, la partie Ntoumou. Je vais le faire maintenant dans ma langue, permettez-moi. Mene, meyemongomo, ngomo mbe, mbe aboso obama, obama moto, moto ngongo, ngongo eyele obama, obama so, asomo sebe, meseme ba, eba misem, miseme ze, zenso, songoro, ngoro boa, obua mokom, Mokom bokoko, bokoko bomba, mbo aso, aso ntumu, ntume kan, mene tema sugova, mtoma neba, eba benofe yemisem, benofe oyek, benofe esasom, benofe yibinveny. Mtofe manongon kojen, kojen benofe yevo, benofe evoan, benofe esabang, benofe esambin, benofe esakak, benofe esazue, ya, male. Alors, je ne présentais dans ma langue. Vous n'avez certainement rien compris, je m'en excuse.
C'est dommage parce que les gestes et les regards sont quand même très évocateurs. Hein.
Mais vous avez annoncé la langue dans laquelle vous parliez ?
J'ai parlé en Ntoumou.
Ntoumou, d'accord.
Ntoumou est une langue qui dérive de la Tsi. La Tsi est la langue des Ekans. Et cette langue, elle s'est, on va dire, dialectisée selon donc, les peuples. Quand vous êtes Beti, vous parlez la Tsi, vous dites que vous êtes Beti, vous parlez le Beti. Quand vous êtes Boulou, vous parlez le Boulou. Quand vous êtes Ntoumou, vous parlez le Ntoumou. Quand vous êtes Fan, vous parlez le Fan. La langue natale, la langue primitive, le latin d'une certaine manière, c'est la Tsi. Et moi, j'appartiens au peuple Ntoumou, du peuple Ekan, et je parle le Ntoumou Ati. Voilà. Alors là, je me suis présenté dans ma langue. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai remonté ma lignée généalogique verticale. J'ai parlé de moi, de mon père, de mon grand-père, et ainsi de suite. Je suis montré jusqu'au XIVe siècle.
Quand même.
Oui, car j'établis de façon arbitraire 25 ans entre le père et le fils. Et donc, je remonte 600 ans en arrière. Car la mémoire que nous avons conservée nous a dicté la liste des ancêtres qui ont existé avant nous et qui ont permis que je vive et que je vienne en Pompilie ici, là, vous les présenter. Voilà pour ce qui était la
nous
première partie.
Voilà. Voilà vraiment était... d'accueillir témoin comme de ça, autant mais de... oui, d'accueillir toute cette
autant d'histoire, oui.
Ah, oui. Tout à fait.
C'est impressionnant.
Et ensuite,
nous sommes rares à pouvoir le faire.
Oui, je sais que beaucoup ont du mal à le faire. C'est des recherches qui m'ont quand même pris 10 ans. Et heureusement, j'ai tombé sur des bonnes personnes qui existaient encore, parce que si elles étaient mortes, j'aurais pas pu retrouver les chaînons, parce qu'il y en avait beaucoup les chaînons manquants.
Il était temps donc de le faire. Il y a
ans. Vraiment, je crois que je l'ai fait au bon moment.
Oui.
Donc c'était la première partie de la présentation africaine. La deuxième partie ensuite, ça a été de présenter mes groupes paternels et puis mes groupes maternels. Nous pratiquons chez les Ekans l'exogamie. Nous nous marions en dehors du clan paternel. Donc il est important de savoir quel est votre clan paternel pour ne pas épouser une fille qui serait du même clan paternel que vous. Donc c'était simplement cela, la présentation donc en langue Ntoumou. Une lignée verticale généalogique. Et ensuite, une présentation du groupe maternel et du groupe paternel. À présent que je me suis présenté, nous pouvons maintenant entrer dans la danse.
Entrer dans la danse. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois, nous sommes dans une lignée, nous sommes dans une langue et dans un endroit qui nous semble assez fermé, alors que notre invité est vraiment quelqu'un qui est très, très ouvert au monde. Et donc, on voit bien quand même, en même temps, moi, je suis assez fascinée de penser à cette notion d'exogamie, quand on voit quand même combien, même encore, on le voit, dans des histoires, aussi religieuses et tout, combien beaucoup de de groupes en restent encore sur les mariages, voilà, dans la famille, entre cousins, etc. Et j'aimerais que notre invité nous parle un petit peu de ses engagements, justement, personnels, humains, voilà. C'est quelqu'un quand même qui se dit, pour mon grand plaisir, panafricain, puisque j'ai dit parler de la vastitude du continent. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos engagements, ce que vous souhaitez vraiment pour... voilà, vers quoi vous vous dirigez dans ce que vous allez nous décrire aussi, ce que vous avez créé aussi également.
Oui. Je vous ai dit que j'étais un Africain. Et j'appartiens donc à la nation Ekan.
Tout à fait.
Et cette nation a plusieurs peuples, dont le peuple Ntoumou. Je me sens donc africain. Et je ne me retrouve pas dans les frontières artificielles qui ont été mises en place.
Oui, on peut comprendre.
Et qui aujourd'hui nous divisent, malheureusement. Je me réclame d'une vision politique, d'une tradition qui prend sa naissance sur les côtes de l'Atlantique du côté africain. Lorsqu'au XVe siècle, des millions de Noirs, de toute ethnie confondue, ont été brassés, ont été malaxés, ont été brutalisés dans le fer et le sang pour être transbordés aux Antilles, dans les Caraïbes, en Amérique. Et cette vision politique, justement, s'est nourrie de la sueur et de la force, des convictions des nègres marrons qui n'ont jamais accepté leur condition d'esclaves. Et plus tard, cette vision, cette tradition politique s'est muée en réflexion mûrie et presque achevée à travers des activistes comme Marcus Garvey ou de grands intellectuels comme William Dubois. Et puis ensuite, cette tradition, cette vision politique a traversé donc l'Atlantique dans le sens contraire pour revenir donc sur les bords de la Manche, en Grande-Bretagne, avec les congrès, où de jeunes étudiants à l'époque, qui vont devenir de grands leaders pour l'indépendance du continent, et qui ont assisté à ces conférences, ont récupéré la vision et la tradition. Et enfin, comme pour boucler la boucle, cette tradition est revenue sur la terre d'Afrique et apprenait donc l'indépendance du continent. Je me réclame donc du panafricanisme. Je me réclame du panafricanisme des nègres marrons, je me réclame du panafricanisme des grands intellectuels noirs américains, afro-descendants, je me réclame du panafricanisme de tous ces chefs d'État africains de la première heure qui ont voulu que dès notre indépendance, nous soyons un continent uni. Uni comme d'ailleurs le continent l'est lui-même. Alors je fais une comparaison entre l'Afrique par exemple et puis l'Europe. Alors, pour ce qui est de l'Europe, vous avez l'Italie qui veut sortir, aller rejoindre carrément l'Afrique. Vous avez l'Islande qui, elle, se barre complètement, la Grande-Bretagne qui refuse même d'être en Europe. Et puis vous avez l'Afrique qui, elle, est compacte, qui n'a de frontières qu'au nord la Méditerranée, à l'ouest l'Atlantique, et puis à l'est l'océan Indien. À l'intérieur de l'Afrique, il n'y a pas de frontières. Les frontières sont dans nos têtes. Parce que simplement, certaines personnes ont voulu que nous ayons ces frontières. Donc, une génération à laquelle j'appartiens récuse cette approche d'une Afrique divisée et s'inscrit vraiment dans le fédéralisme. Et je terminerai en disant que pour ce qui est de l'approche intellectuelle, je suis un fervent disciple de Cheikh Anta Diop, qui malheureusement n'a pas grande presse ici, encore moins au Sénégal, parce qu'on lui a préféré Léopold Sédar Senghor, qui pour moi a été un bon nègre de salon, avec tout le respect que j'ai pour son talent de poète.
Tout à fait.
Mais pour moi, ce n'était pas un bon politique africain.
Voilà. On est d'accord, c'est vrai qu'il y a des contestations au sein du continent. Et à la fois, il y a vraiment cette notion d'unité, de compact. Et c'est vrai que quand on arrive sur ces terres, on sent quelque chose qui est très fort et qui, moi, personnellement, ne me met pas du tout mal à l'aise. Et on sent aussi, on en parlait récemment, on sent aussi vraiment cette puissance spirituelle qui habite le continent, qui habite, qui est partout. On n'a pas besoin besoin d'aller dans une église, dans un temple, dans n'importe, dans un lieu. Après, évidemment, vous avez vos coutumes et vos rites, etc. Mais c'est, cette force-là, je trouve qu'elle, c'est aussi quelque chose qui vous porte. Enfin, qui au départ, en tout cas, dans vos générations, vous porte. Même si maintenant, on pourrait en discuter, il y a malheureusement, voilà, il y a la contamination blanche ne donne pas que des effets positifs. Et j'aimerais que vous nous parliez peut-être aussi de cette force spirituelle là, dans laquelle vous mettez, vous repérez, et qui fait aussi peut-être que ce dont on va parler, de ces projets, de cette récupération de vos légendes et de vos contes, de tout ce qui fait votre histoire, votre identité, votre être, et même presque vos entrailles, tout ce qui vous porte comme ça, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu.
Oui, merci de me donner cette occasion. Alors, c'est vrai que on ignore beaucoup la tradition africaine. Ceux qui s'intéressent à l'histoire des civilisations savent que les toutes premières civilisations humaines sont nées sur le continent africain. Je vais parler de la civilisation éthiopique, que peu connaissent, la civilisation numienne, que des gens commencent plus ou moins à entrepercevoir, et la civilisation égyptienne, qui, elle, on la connaît parfaitement. Dans ces trois civilisations, il y a eu un continuum spirituel qui n'a pas changé. Ce continent spirituel nous apprend que il existe un seul Dieu. Un seul Dieu. Et ce Dieu, il est dual. Il est à la fois masculin et féminin. Voilà. Et ce Dieu, il est polymorphe. C'est-à-dire qu'il a plusieurs représentations. Son identité est unique, mais ses représentations sont multiples. Et l'erreur, c'est de croire dans cette multiplicité qu'il y a plusieurs dieux. Et c'est justement la critique qui a été faite aux civilisations africaines sur le plan religieux ou spirituel, de croire que nous étions des polythéistes, alors qu'en réalité, c'était les différentes formes d'expression qui, en aucune façon, ne pouvaient se situer à la substance même essentielle, donc de la divinité. Et donc, nous, nous considérons que cette divinité s'est presque dispersée en chacun de nous. Nous avons chacun une particule divine. Et cette particule divine, elle va se retrouver dans la chair, à travers les différents ancêtres qui vont faire qu'aujourd'hui j'existe. Et pour accéder à Dieu, qui est un Dieu qui ne se soucie pas des hommes dans la conception africaine, il ne se soucie pas des hommes, il n'a pas de projet pour lui, il est. C'est nous qui voulons accéder maintenant à ce Dieu, constatons qu'à travers les lois qu'il a mises en place, il nous faut retrouver l'harmonie. L'harmonie que lui-même il a mis en place. Et nous comprenons que cette harmonie ne peut se faire qu'à partir de l'amour. Voilà, l'amour de soi. Car celui qui aime Dieu, celui qui aime la divinité, va forcément se rapprocher de sa créature, se rapprocher de l'homme, se rapprocher de la bête, se rapprocher de la nature, pour être en osmose avec l'harmonie que Dieu a mis en place, que le Créateur a réalisée. Celui qui défie Dieu, celui qui se croit surhomme, là, je pense un peu à Nietzsche, eh bien, il ne va pas avoir le même regard sur la créature. Car s'il défie Dieu, il peut détruire la créature. Mais celui qui fait allégeance à Dieu, respecte la créature, respecte l'équilibre. Et c'est ça notre spiritualité. C'est-à-dire que nous voyons dans chaque être vivant, que cet être soit végétal, qu'il soit minéral, qu'il soit animal, nous voyons la place de Dieu. On appelait cela l'animisme. Aujourd'hui, on lui donne une connotation plus positive, on parle de vitalisme. Mais l'idée, c'était de voir Dieu dans chacune de ses créations et donc de respecter la création. Qui respecte la création, respecte également Dieu, vénère Dieu. Et nous, lorsque nous avons besoin de communiquer avec Dieu, eh bien, nous passions par les ancêtres, d'où le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres. Voilà pourquoi, quand moi je vous donne mon arbre généalogique, je remonte jusqu'à mes différents ancêtres. Et je ne peux accéder à Dieu que si je passe par ceux qui étaient avec nous, qui ont disparu et qui sont repartis, et qui peuvent maintenant récupérer nos paroles lorsque nous adressons dans des prières et porter ces paroles auprès de Dieu. Voilà la spiritualité africaine, madame. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de fétichisme, c'est une approche grossière très critiquable.
Caricaturale.
Voilà. Lorsqu'on parle d'animisme, lorsqu'on parle de polythéisme, ce sont des erreurs d'appréciation. En fait, il eût été souhaitable qu'on nous demande qui nous sommes, pour que nous nous présentions. Ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a présenté selon un prisme, il faut le dire, racialiste et dépréciatif, que l'idéologie raciste avait façonné depuis le XVIIIe siècle. Donc, il nous faut absolument corriger tout ça. Mm-hmm. Avec des éléments fondamentaux que nous puisons dans l'histoire du continent africain. Et justement, le projet que je suggère aujourd'hui est un projet qui, ayant fait justement cette quête identitaire personnelle, pour la petite histoire, quand je viens faire mes études à Montpellier, madame, je ne parle pas ma langue, parce que je la méprise. Je parle bien le français. Et puis surtout, je me suis cultivé sur les civilisations gréco-latines, sur les civilisations médo-perses, assyriennes. J'ai voulu comprendre tout, j'ai voulu connaître tout, mais de l'Occident. Car on me disait que c'était l'Occident qui était la mère des civilisations et que l'Afrique était la traîne. Voilà. Quand j'arrive à Montpellier, en 91, je suis dans cet état d'esprit. Et puis, quand je suis président du CAM, au cours de mes activités, on me demande d'aller faire une conférence au lycée européen Jean Monnet. Je suis parti faire la conférence. Moi, je parlais du panafricanisme. Et mon ami, je ne sais plus si c'était Ozouf Aminyado ou quelqu'un d'autre, lui, il parlait de la négritude. Moi, je n'aime pas trop parler de la négritude à cause de Senghor. Je voulais parler du panafricanisme à cause de Cheikh Anta Diop. Voilà. Et donc, quand je sors donc, de cette conférence, une jeune fille de seconde, jusqu'à c'était deux ou trois, Monsieur Ngomo, mais on vous écoutait, votre conférence était intéressante. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu l'africain? Je dis, ah, mademoiselle, ce serait très difficile que je parle l'africain. L'Afrique, c'est un continent. C'est pas un pays. C'est un peu comme vous, si je demande de parler l'européen. Ça vous espérez, vous essayez depuis longtemps d'avoir l'espéranto oui. comme langue européenne, mais bon, vous n'y êtes pas encore. Mais si je demande de parler l'européen, est-ce que vous pourrez le faire? Ah, non, je peux pas le faire. Mais moi, je sais pas parler l'africain. Mais dans ce cas, parlez-moi alors la langue de votre pays. Vous êtes de quel pays? Moi, je suis du Gabon. Alors, parlez-moi le Gabon. Ah, alors, c'est encore plus difficile. Le Gabonais n'existe pas. Nous, la langue qu'on parle, c'est le français. C'est la langue officielle. Ah! Et alors, mais vous êtes de quel peuple? Moi, je suis du peuple Fan. À l'époque, je disais Fan, mais en fait, je suis Ekan. Je suis du peuple Fan. Alors, monsieur, vous me parlez-moi le Fan. Là, je suis embêté. Je suis embêté parce que je réalise que j'ai passé mon temps à vouloir connaître la culture des autres. Mais les autres, ce qui les intéresse, c'est ma culture. Et je me suis dit, oulala, il faut que je repédale. Donc c'est à Montpellier ici, je vous l'ai dit très sincèrement mesdames, c'est à Montpellier ici où je prends conscience qu'il faut que je fasse un back to the roots. Et je l'ai fait puissamment, au point que 20 ans plus tard, je remonte maintenant jusqu'au 1400, donc au 14e siècle, 15e siècle. Aujourd'hui, je me suis informé sur les civilisations éthiopiques, nubiennes, soudanaises, africaines. Et je peux maintenant parler avec beaucoup d'aisance. Donc, si c'est une fille de seconde, qui peut-être aujourd'hui est une dame qui travaille, qui a sa vie de femme mariée, ou bien qui a sa vie professionnelle, m'écoute, eh bien, qu'elle revienne maintenant et qu'elle repose la même question, et je pourrais lui dire quelques mots dans ma langue.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, nous, occidentaux, qui avons tout gommé, hein, puisque enfin, le machinisme, tout ça, ça nous a fait renier un peu toutes nos cultures. Et actuellement, bon, moi je suis psy, hein, et actuellement, depuis quand même deux ou trois décennies, on est en train justement de redécouvrir, tout comme notre invité l'a fait par une démarche beaucoup plus naturelle, puisque quelque part, effectivement, c'est une culture qui est plus porteuse de revendiquer ce dont on vient. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit comme ça, si tu veux savoir où tu veux aller, il faut que tu saches d'où tu viens. Mmh. Et on est en train de découvrir le poids de l'histoire de la psychogénéalogie, de l'histoire des générations. Et on est en train de se rendre compte et d'essayer de mettre au point des techniques qui ne sont pas toujours visibles, acceptables par les scientifiques, pour aider les gens justement à se, peu à peu, à découvrir et peut-être à se débarrasser de certains poids. Voilà. Et que donc cet inconscient que nous avons, pour vous, naturellement, il s'inscrit au travers de la spiritualité aussi. C'est-à-dire, c'est quand même, on n'est pas là, il n'y a pas de clivage entre l'intellect, l'affectif, le spirituel. Il y a vraiment des hommes, des personnes qui sont un tout et qui justement, par une simple réflexion d'une jeune fille, porteurs de leur culture, peuvent revenir avec un enrichissement extraordinaire dont nous profitons d'ailleurs aujourd'hui, hein, Guylaine.
Absolument. Et vous avez été très bavards tous les deux. Il va falloir qu'on s'arrête oui. et qu'on se retrouve la oui. semaine prochaine pour oui. Quand même aborder cet aspect de la bande dessinée.
Absolument,
de
parce
la
que là, on a hâte de savoir
maintenant. Et la culture Ekan.
Voilà.
Ekan, comment vous dites Jeffrey, Ekan, voilà. Ekan. Alors la culture Ekan, ce sera pour la prochaine fois.
D'accord, donc on va écouter Ali Farkatouré dans Diarabi.
Ikana kasi, ikana mingo, jarabi koso.